Rencontre avec Rodolphe Grolesia, notre chroniqueur potager, un ancien urbain qui s'est mis au vert. Il nous fait partager son rêve, à présent devenu réalité. Un sujet de Pascal Marcacci.
Vous n'êtes pas marié ?
Non, nous sommes mariés, mais on a chacun nos noms. Et donc nos enfants peuvent choisir les deux noms de famille. Et ils auraient pu s'appeler Grolesia et Riarte Ariola. Ce qui est une bonne base pour connaître les lettres de l'alphabet, mais qui est un peu une contrainte quand on a à le dire en public.
Oui, ça fait franchement scientifique, et heureusement qu'il n'y a aucune plante qui s'appelle comme ça quand même.
Il y a des plantes qui ont des noms beaucoup plus compliqués. Hein. Il y en a une, je suis incapable de donner son nom tellement c'est difficile, il y a des Z et des W dans tous les sens.
Votre terrain d'entente, ce sont ces fameux...
Notre terrain d'entente, c'est le repas. Parce que le repas est à mi-chemin entre le potager et la cuisine. Et donc, c'est là où on peut discuter, échanger, partager avec tous ceux qui sont autour de la table. D'une manière générale, c'est plutôt par goût. Hein. Ce n'est pas un déterminisme sexué, mais je vais peu dans la cuisine, je le reconnais. Et Virginie va peu dans le jardin. Voilà. Ça va conforter Elisabeth Badater comme quoi les écolos sont sexistes. Mais c'est comme ça, c'est tout.
Le terrain, il est bien quand même, vous l'avez trouvé, mais vous ne l'avez même pas cherché.
Le terrain, il nous est tombé dessus plutôt qu'autre chose. Il ne correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait. Nous, on voulait un terrain en pente, protégé par des arbres et un coteau au nord des vents du...
Vous vouliez Monaco ?
On voulait l'idéal. L'idéal au niveau bioclimatique. On ne l'a pas eu, mais en échange, on a trouvé une vendeuse de terrain qui est devenue la grand-mère des enfants. Nous, depuis qu'on a changé de vie, depuis qu'on est venu à la campagne, depuis qu'on fait du jardin, on va de heureux hasard en concours de circonstances extraordinaires. Et donc, on a eu le bonheur de rencontrer cette dame qui est devenue quelqu'un d'extrêmement important chez nous, pour notre famille, pour nos enfants. On a eu la chance de trouver un terrain avec une terre... plutôt facile à cultiver, qui nous permet de produire des légumes avec une certaine facilité, je trouve. Alors je sais pas, je me rends pas bien compte, peut-être que c'est moi qui suis pas si mauvais que ça, mais en tout cas je trouve que c'est assez facile d'obtenir des légumes. Et puis il y a eu toute cette aventure autour du potager avec le prix national, avec les bouquins, avec la télé, avec Radio Éthique, etc. À chaque fois on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ben non, c'est tous les ans, tous les 6 mois, on a notre nouveau petit bonheur qui justifie un petit peu le fait qu'on ait quitté la ville pour vivre aussi heureux à la campagne.
C'est une ville qui est pas mal quand même, Amiens. Vous en aviez assez ?
Amiens, c'était très bien. On avait tous nos copains, on avait la famille, on avait le conservatoire de musique, on avait les cinémas, on avait le théâtre, on avait le musée, on avait un cadre de vie. Amiens, c'est une ville très très verte, hein, avec un centre sur la Somme, les Ortillonnages, qui est très très agréable à vivre. Moi, je courais énormément, j'étais sans arrêt tous les jours, j'étais dans ces zones pas vraiment périurbaines, parce qu'il n'y a pas d'habitat, mais qui sont des zones de nature au milieu de la ville. On a vraiment quitté tout ça en se demandant si on faisait pas une énorme bêtise. Mais le motif, c'était arrêter de se déplacer, arrêter d'utiliser la voiture tous les jours pour aller bosser, et on regrette pas.
Oui, parce qu'en fait, vous avez été nommé par l'éducation nationale. Là, ça faisait un petit peu loin.
Bah, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que c'était pas très très loin. 75 km, c'est pas très très loin.
C'était pas assez loin.
C'était pas assez loin. Si ça avait été assez loin, il n'y avait aucun problème, on discutait pas, on déménageait, on partait. Mais là, le pas assez loin, eh ben, y avait l'espoir de revenir sur la ville. Donc on acceptait la contrainte de faire la route. Et puis ça a duré quelques années, puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, stop.
Alors il y a des gens qui vous le disent, hein, vous passez quand même beaucoup de temps dans votre jardin, et vous leur répondez quoi ?
C'est assez drôle, parce que dans ma vie d'avant, je passais 10 heures dans ma voiture pour aller au travail ou pour revenir du travail, et ça ne choquait personne. Au même moment, je courais à peu près 10 heures par semaine, et tout le monde était extrêmement admiratif du courage que j'avais à courir pendant 10 heures par semaine. Et maintenant que je passe 3h30 dans mon jardin, c'est très très drôle. Tenez-vous bien, Pascal, les gens me disent « Oh mais non, mais moi j'ai pas le temps !» C'est comme quoi on a tous des priorités, on fait tous des choix, et si on fait le choix de faire le jardin, que ça prenne du temps ou que ça prenne pas de temps, ben on le fera, et on s'apercevra assez vite que ça prend pas beaucoup de temps par rapport aux autres choses. Mais si on n'a pas envie de faire de jardin, même si ça prend pas de temps, on trouvera toujours une bonne excuse pour pas y aller.
Alors ce qui est pas mal, c'est que votre mare, ça vous en avez parlé sur Radio Éthique, c'est bien de faire sa mare. Vous attirez aussi les enfants du coin.
Dès qu'il y a un point d'eau, hein, c'est la vie, l'eau c'est la vie, donc tout rapplique autour, oiseaux, crapauds, et enfant. Ça s'appelle un zug, on mélange les choses. La mare, elle fascine mes petits, mais tous les ans, une à deux fois par an, il y a les enfants de l'école du village qui viennent visiter le jardin. Et le passage autour de la mare est pour eux quelque chose d'important. Certainement parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a toute cette vie qui grouille, il y a les petites bêtes, il y a les plus grosses, les crapauds. Et puis aussi parce que ils n'en voient plus de mare. Autrefois, dans mon village, il y avait 7-8 grosses mares qui servaient à capter les eaux de pluie lorsqu'il y avait un trop-plein pour éviter les inondations. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a parfois des inondations. Mais surtout, il n'y a plus ces animaux qui trouvent refuge. Les enfants n'ont plus de lieu, même si c'est un peu dangereux parfois, pour jouer. Donc, quand il y en a une petite, c'est apporter de la vie, apporter du bonheur dans le jardin.
Vous avez un faisan aussi qui vient maintenant, non ?
C'est Virginie qui a raconté le coup du faisan.
On est au courant de tous les secrets de famille.
Il y a un gros faisan très très joli qui a élu domicile, je pense, dans les haies qui abritent le potager. Souvent on l'entend, ça fait un bruit très caractéristique que je ne vais pas faire ici en public. Donc on l'entend et puis il se rapproche et puis régulièrement on le voit en train de boire dans la mare. Parce que comme il fait très très sec chez nous ce printemps, au mois d'avril il est tombé 1 mm d'eau, c'est pour vous dire. Il n'y a aucune flaque dans les champs, il n'y a aucune flaque dans les chemins. Les seuls points d'eau, c'est ma mare. Donc toute la faune locale réplique. Or, elle n'est pas très nombreuse, la faune locale, puisqu'il n'y a que le faisan qui est venu, plus les habitués. Mais c'est assez marrant de voir cette grosse bestiole, c'est assez gros, aux couleurs flamboyantes, qui est là quand je jardine, c'est très sympa.
Tout ce que vous faites, c'est bien, mais vous avez quand même du terrain. Si on a un jardin plus petit, comment est-ce qu'on peut faire hein?
Moi, j'ai l'immense chance d'avoir ce grand terrain. Des fois, j'aimerais en avoir encore plus. Parce que j'aimerais bien au final arriver à produire des fruits et légumes, surtout des légumes pour les gens qui habitent autour de chez moi.
Pour vos voisins ?
Pour mes voisins, pour les gens. Tout simplement parce que dans nos jardins, on peut produire des légumes qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces et qu'ils sont d'une qualité sanitaire qui est bien plus grande. Les vitamines sont encore là. Je trouve que ce sera un beau métier au final que de produire des fruits et légumes frais pour les gens qui habitent à côté de chez soi. Mais des fois, j'aimerais bien aussi avoir un jardin un petit peu plus petit, histoire de le faire de manière un peu plus minutieuse. Et puis de pouvoir avoir le temps de faire autre chose. Mais voilà, c'est comme ça.
Alors si on a un petit jardin, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Si on a un petit jardin, on peut tout faire. Des fois même, on peut mieux faire que dans les grands, parce que souvent, les petits jardins sont abrités derrière des murs. Avoir un mur dans un jardin, c'est une immense richesse. Moi, j'ai pas de mur. La maison a des murs en bois, donc je peux pas mettre de culture dessus. Les zones mitoyennes avec mon voisinage, il n'y a aucun mur de briques, de pierre ou de silex. Si j'avais le temps, je pourrais en construire un pour pouvoir faire pousser des choses qui ont besoin d'abri au vent, de chaleur, etc., pour palisser des arbres dessus. Et donc, dans les petits jardins, on peut faire tout ça. On peut faire pousser des arbres contre les murs, on peut faire pousser des kiwis, on peut faire pousser des vignes. Et puis, dans le petit jardin, on peut rationaliser le système de la gestion de l'eau, on peut rationaliser son travail au niveau des mulchings, des paillages et compagnie. Donc, on n'est pas obligé de faire des grandes séries de cultures, on n'est pas obligé de mettre 100 pieds de tomates. Dans un petit jardin, si on a 3-4 pieds de tomates, une dizaine de betteraves qui poussent, quelques pieds d'asperges dans un coin, une tour à pommes de terre dans un autre, ben voilà, c'est le paradis.
Au départ, quand vous avez démarré, c'est pas avec des moyens démoniaques, en fait, est-ce que vous vous suréquipez ? Comment est-ce que vous faites au fur et à mesure ?
Alors, moi, j'ai très très peu d'outils. J'ai deux outils thermiques, une tondeuse, donc une tondeuse thermique et un broyeur à bois électrique. Pour le reste, je me sers d'une fourche bêche, d'un croc, d'un râteau, d'une fourchette, d'une truelle, et puis de mes mains. C'est l'essentiel de mes outils. Donc l'investissement matériel est très très faible. Et après, j'ai pris comme parti que rien ne devait sortir du jardin et rien ne devait y entrer. Donc je fais avec les moyens du bord. Si j'ai besoin d'amender mon sol, et ben je vais faire mon compost. De toute façon, le compost, c'est quelque chose, pour moi, c'est une évidence. Et puis, depuis 3 années où on a des printemps et des étés plutôt secs, il y a un problème d'eau dans mon jardin, il y a un vrai problème d'eau. Donc toute l'eau que je peux accumuler dans des citernes ne sera pas suffisante pour arroser les légumes. Donc je suis obligé de passer par des paillis. même si j'ai la contrainte limaces, mulots et compagnie. Et donc je vais utiliser les ressources du jardin. Alors les ressources, ça pourrait être du compost, on peut très bien pailler avec du compost, on peut pailler avec de l'herbe coupée, fauchée, on peut pailler avec de l'herbe tondue, on peut pailler avec des broyats. Et si je n'ai plus rien sous la main, eh ben, en désespoir de cause, mais je le fais assez facilement, je vais aller à l'arrière des grandes surfaces pour aller récupérer des cartons sans encre, j'enlève le scotch, les agrafes, et je me sers de carton pour pailler, parce que il faut que je fasse avec ce que j'ai sous la main. Point à la ligne.
On ne va quand même pas acheter du carton, surtout quand on n'entre pas dans la grande surface pour acheter la lessive en plus. Ouais.
Ah ben, la lessive, Virginie vous a parlé de la lessive, alors dites. Elle est bien bavarde, ma Virginie.
On dirait pas comme ça. Hein.
En fait, au niveau des ressources du jardin, il y a des priorités. Par exemple, lorsque je taille les arbres, ma priorité, c'est le chauffage. Donc je vais d'abord garder les plus gros pour faire des petites bûchettes, et puis les plus petits, je vais en faire des fagots pour allumer la cheminée, et puis avec celles qui sont longues, en priorité ça va me servir à faire des rames, et puis celles qui sont les branches qui sont trop petites, je vais faire du broyat avec, donc ordre de priorité. Et puis, à la sortie de la cheminée, je produis des cendres. Donc, ces cendres, c'est pareil, c'est ordre de priorité. Ma première priorité, c'est de nettoyer les habits. Donc, en faisant ma lessive, c'est très, très simple. On prend les cendres, on les tamise, on met de l'eau bouillante dessus, on aère avec un bâton pendant 24 heures ou 48 heures, on laisse sédimenter. Et puis après, on filtre tout ça, on a sa lessive comme ça très facilement. Donc, première priorité, faire la lessive avec les cendres. Et la deuxième, avec tout ce qui reste, je fais des apports de potasse dans les zones où je vais avoir des pommes de terre, un petit peu de tomates, etc. Je disperse ces cendres-là. On ne va pas jeter non plus des cendres. Donc, l'idéal serait de pouvoir essayer de fonctionner comme un grand système où les choses entretiennent les autres. Une action permet d'entretenir une autre.
À part que le système est sain. Et votre bateau, alors, ça avance dans tout ça, un peu ?
Arrêtez de parler de choses qui fâchent. Le bateau est en stand-by. Bon, le bateau, c'est un kayak. Hein. Mais ce bateau était très bien parti. Il est aux trois quarts fait. Mais depuis 2 ans, j'avoue que ma priorité, mon ordre de priorité, c'est de faire la promotion du jardin potager plutôt que de faire mon petit bateau qui me permettra d'aller me promener tout seul. Il y a 3 ans, je jugeais qu'il était important pour moi d'avoir un petit bateau pour aller me faire des petites balades en solitaire. Maintenant, je juge que faire la promotion du jardin et faire en sorte que les gens aient envie d'avoir chez eux un jardin potager qui leur donne de multiples plaisirs lors des récoltes ou lors des cultures, ça me semble bien plus important.